Notre thème de ce matin est pratiquement concentré sur un seul verset de Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est Dieu qui nous a fait connaître ce qui est bien, parce que c'est Dieu qui a défini, établi, révélé et finalement incarné le bien. Et on est toujours face à cette tentation première du Jardin d'Éden de définir par nous-mêmes ce qui est bien. Et parfois on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de convaincre Dieu que dans notre situation particulière, on est juste dans le petit cas qui échappe à sa sphère de compétence. Qu'on est juste dans le petit cas auquel il n'a pas pensé, qu'il n'a pas cadré et prévu dans sa parole, et que du coup, il y a vraiment que nous qui sommes à même de définir dans cette circonstance tout à fait spécifique ce qui est bien. C'est de l'arrogance de notre part. Et on a tous vécu ça. Tous vécu des moments où on essaye de se convaincre et de convaincre Dieu que nous sommes plus à même que lui de définir ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. C'est une erreur. Dieu a défini le bien. Il nous a donné une conscience qui est plus ou moins élastique selon les personnes, selon les cultures, selon les contextes, mais qui est quand même là comme un petit tribunal intérieur. Et puis surtout, il nous a révélé sa loi, ses 10 commandements, 10, une mesure d'homme, même si plusieurs livres détaillent ensuite la pensée de Dieu, 10 commandements. C'est quand même pas mission impossible à retenir, normalement. Et pourtant, même le premier, on n'est pas capable de l'accomplir. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alors le second, ton prochain comme toi-même, même pas en rêve. Et c'est pourtant Dieu qui a défini ça comme le début du bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Mais l'Éternel ne nous a pas seulement révélé, défini, expliqué, incarné le bien, mais il nous le demande, ce que l'Éternel demande de toi. Non seulement l'Éternel nous a révélé ce qui était bien, mais l'Éternel s'attend, l'Éternel s'attend de notre part à ce que nous pratiquions ce bien. L'Éternel demande de nous la pratique du bien. Et souvent, on aurait tendance à se dire, il suffit de ne pas faire de mal. D'ailleurs, c'est la réflexion de la plupart des gens. Face à l'éternité, ils disent, mais moi, j'ai fait de mal à personne. Mais c'est pas ça, le bien. Dans Jacques, il est dit, celui qui sait faire ce qui est bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. À un moment, dans l'Évangile, Jésus va dire, toutes les fois que vous n'avez pas fait ce bien aux autres. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Retirez-vous de moi. Waouh! C'est fort comme parole, n'est-ce pas? Dieu demande à ce que nous pratiquions activement ce qui est bien. Ne pas faire le mal ne suffit pas du tout. Ne pas faire le mal, c'est pas faire le bien. C'est juste ne pas faire le mal. Et parfois, nous aurions tendance à nous contenter et à trouver que c'est déjà pas mal, finalement, de ne pas faire ce qui est mal. Et c'est vrai que c'est bien de ne pas faire ce qui est mal, mais c'est pas bien. C'est juste ne pas faire ce qui est mal. Faire le bien, c'est encore l'étape suivante. Et c'est ce que Dieu demande de nous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Et nous aurions là encore tendance à croire que faire comme tout le monde, c'est bien, puisque tout le monde fait comme ça. Or Dieu, déjà avec Israël, a été très clair, vous n'imiterez pas ce qui se faisait en Égypte. Vous n'imiterez pas ce qui se fait en Canaan dont vous allez prendre possession. Vous n'imiterez pas les autres nations, pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, votre Dieu, parce que vous êtes mon peuple. Faire comme tous les autres, et c'est la tendance qui gagne la société, qui gagne l'Église, faire comme tous les autres parce que ça se fait comme ça, c'est pas faire ce que Dieu demande de nous. Parce que Dieu demande de nous ce qui est bien selon sa définition à lui, pas selon le goût du jour ou la mode. Que tu pratiques, que tu aimes, que tu marches. sont trois verbes, pratiquer, aimer, marcher. Dieu s'occupe, se soucie de mes actions. Ça a été déjà dit, le verset, un verset corollaire a été cité, du lieu de sa demeure, Dieu observe les fils de l'homme. Lui qui forme leur cœur à tous, psaume 33, qui est attentif à toutes leurs actions. Dieu se soucie de ce que je fais en permanence. Que tu pratiques, ma pratique de vie lui importe. Mais Dieu se soucie aussi de ce qui anime mon cœur. Que tu pratiques, que tu aimes. Dieu se soucie de mes affections profondes. Dans Hébreux 4, 12, il est question de la parole de Dieu qui est vivante, efficace, pénétrante, comme une épée à double tranchant, jusqu'à partager âme et esprit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu se soucie de ce qui est dans nos cœurs, de ce à quoi notre cœur est attaché profondément. Puis enfin, que tu marches. Notre façon de marcher, au sens au second degré, c'est un peu notre mode de vie. Dieu se soucie de notre mode de vie. Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dieu se soucie de notre façon de marcher. Dans Amos 3, il est dit, est-ce que deux hommes marchent ensemble sans s'être concertés? Non, si on marche avec quelqu'un, dans la durée, ça veut dire qu'on est d'accord pour partir du même endroit et si possible pour arriver au même endroit, sinon on ne marche pas ensemble, et pour aller au même rythme. Enoch a marché avec Dieu 300 ans. Bon, normalement, ça ne nous arrivera pas, en tout cas pas ici-bas. Mais quand même, quelle persévérance dans sa marche chrétienne, 300 ans. Dieu désire que nous nous concertions avec lui pour que notre mode de vie, nos choix de vie, nous conduisent à marcher avec lui pas à pas, jour après jour, mois après mois, année après année. Et Dieu s'engage à être fidèle. J'ai entendu dire que des jeunes allaient passer le BFD, le BAFA à Matania cet été. C'est bien, c'est beau les activités de jeunesse. J'ai rencontré Vanessa quand elle avait 15 ans. Elle était campeuse, j'étais directeur. C'était il y a très longtemps, c'était une autre vie. Et on est aujourd'hui dans la même église à l'écoute de la parole de Dieu parce que Dieu est fidèle. Ça, c'est extraordinaire. Nous pouvons parfois lâcher la main de Dieu. Nous pouvons parfois quitter le sentier que Dieu a prévu pour nous. Mais Dieu est fidèle. Et Dieu nous tend toujours la main. Et Dieu nous propose toujours de revenir dans ses traces, dans ses pas, pour reprendre la route avec lui. Cet enseignement, c'est l'enseignement du Seigneur dans Matthieu 7, par exemple, les deux chemins, les deux portes, une qui mène à la vie, une qui mène à la perdition. C'est un choix de vie, ça compte pour Dieu. Les deux arbres, un arbre qui donne du bon fruit et puis un arbre qui donne du mauvais fruit, ce qui émane de nous, compte pour Dieu. Et puis ces deux maisons, une qui est construite sur du sable, sur le trouble des biens de ce monde, et puis une qui est construite sur la parole de Dieu, du rocher, et qui dure malgré les tempêtes de la vie. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Matthieu 7. « Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, Dieu s'inquiète, s'occupe, se soucie de ce que nous faisons de notre vie. » Pratiquer, aimer, marcher. Maintenant, il y a trois autres mots dans ce verset, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches avec ton Dieu humblement. La justice. Dieu est parfait dans sa justice. Dans Deutéronome 16, par exemple, il est dit « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. » Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dieu est un Dieu de justice. Il est question de poids et de balance correcte. Pas un peu faussé à l'avantage du marchand. Il est question de parole, juste, véritable, qui ne soit pas de faux témoignages. Il y a un parfait équilibre dans la justice de Dieu. Par exemple, dans Exode 23, verset 3, il est dit « Tu ne défavoriseras pas le pauvre sous prétexte qu'il est pauvre. » Ce n'est pas parce qu'il est pauvre qu'il n'a pas le droit de bénéficier d'une justice équitable. Et trois versets plus loin, il est dit « Tu ne favoriseras pas le pauvre parce qu'il est pauvre. » Ce n'est pas parce qu'il est pauvre qu'il a le droit de faire du tort ou du mal à l'autre. Quel équilibre dans la justice de Dieu ! Une justice parfaite qui ne défavorise pas, mais qui ne favorise pas non plus. Une justice juste, équitable. Dieu nous met en garde contre la tentation facile d'abuser de la vulnérabilité d'autrui. Exode 22, par exemple. « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai. » Ou Lévitique 19. « Tu n'opprimeras point ton prochain, tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd, tu ne mettras pas devant un aveugle quelque chose qui puisse le faire tomber. Tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. » La justice de Dieu est tellement grande qu'elle concerne même la terre. Quand Dieu demande à ce que tous les 7 ans, la terre se repose, qu'elle ait une année de sabbat, par exemple. La justice de Dieu concerne même les arbres. À un moment donné, il dit, si vous faites un siège pour attaquer une ville, ben vous couperez pas les arbres fruitiers, ils sont pour rien. Tu vas pas faire un siège à un arbre quand même, il y est pour rien dans ta guerre. C'est impressionnant, non, ce souci de Dieu. Dieu se soucie même des animaux. Il va même au-devant de nos éventuelles hésitations concernant un acte de charité vis-à-vis d'un animal. Je vous lis ça dans Exode 23. « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. » Peut-être ton ennemi, mais son bœuf ou son âne, ils y sont pour rien dans ta querelle, dans ton embrouille. « Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, non pas parce que c'est un âne, mais parce que c'est l'âne de ton ennemi, bien tu n'hésiteras pas, tu ne te détourneras pas, tu aideras ton ennemi à décharger son âne. » C'est impressionnant, non, que Dieu ait ce souci-là de venir au-devant de nos réticences, de nos hésitations. Il nous connaît comme s'il nous avait fait, hein. Il nous a fait. Il nous connaît bien. La justice de Dieu dépasse la nôtre. Mais c'est celle qu'il nous demande de pratiquer. Que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Dieu est un Dieu de justice, une justice parfaite. Mais Dieu est aussi un Dieu de miséricorde. Si Dieu n'était que juste à notre égard, nous serions perdus. Nous serions perdus. Dieu est aussi un Dieu de miséricorde. J'aime la miséricorde et non les sacrifices. Quand Moïse demande à Dieu de lui révéler sa gloire et que Dieu cache Moïse dans un creux et puis qu'il le cache de sa main et que Dieu proclame son nom, il dit l'Éternel. L'Éternel riche en miséricorde. Dieu est un Dieu de miséricorde qui aime la miséricorde. Merci Seigneur. C'est ce qui me permet, par le voile déchiré, de m'approcher de toi, parce que tu es un Dieu de miséricorde. Et Dieu nous demande de lui ressembler. Dieu nous demande d'aimer aussi la miséricorde. Ce qui va nous conduire encore plus loin que la justice. Faire juste ce qui est juste, c'est bien, mais ça ne ressemble pas à Dieu. Dieu veut nous conduire au-delà de ce qui n'est que juste, vers une générosité de cœur qui lui ressemble. Par exemple, dans Luc 6, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Dieu nous invite à faire preuve de miséricorde. à être généreux de nous-mêmes, de notre amour, de nos biens, de notre temps vis-à-vis des autres. Et vous savez, on l'a tous déjà vécu, la roue tourne. Et tôt ou tard, on récolte ce qu'on sème, en bien ou en moins bien. On se servira pour vous de la même mesure avec laquelle vous vous serez servi, de laquelle vous vous serez servi pour les autres. Alors souhaitons que ce soit une mesure bien serrée, secouée et qui déborde. Que tu marches humblement avec ton Dieu. On pourrait penser que le terme « humblement » est totalement inutile dans ce texte. Comment marcher avec Dieu autrement que dans l'humilité, franchement, si seulement, n'est-ce pas? La gloire de Dieu est tellement humble que je peux me permettre, moi, petit vermisseau insignifiant, de marcher à ses côtés en faisant l'orgueilleux. Je répète, la gloire de Dieu est tellement humble. Il ne m'écrase pas de sa gloire. Il est tellement humble, même dans sa gloire, que je peux me permettre, moi, petit vermisseau infime, de marcher à côté de lui en faisant l'orgueilleux. Mais c'est de l'arrogance. Dieu désire que nous marchions avec lui humblement. C'est aussi l'enseignement de Jésus. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Celui qui se rendra humble comme ce petit enfant entrera dans le royaume des cieux. Vous m'appelez maître, serviteur, seigneur, et vous faites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, si donc j'ai pris la place et le rôle du serviteur, vous devez aussi vous servir les uns les autres. Etc. Philippiens 2, il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant humble pour nous sauver. Je ne peux pas, par moi-même, devenir humble. Malgré tous mes efforts, je ne peux pas ressembler au Seigneur. Ni dans l'humilité, ni dans aucun autre de ses traits de caractère, d'ailleurs. Parce que mes efforts sont encore quelque chose qui vient de ma chair. Corrompu jusqu'au dernier cara. Donc je ne peux que recevoir de sa grâce, de son esprit, de sa présence en moi, comme un pur don, son amour, sa paix, sa joie, sa patience, sa bonté, son humilité, l'action, le résultat de la présence du Saint-Esprit en moi. Ça ne peut être qu'un cadeau de sa part. Même si je suis appelé à le chercher, à le désirer. J'ai lu récemment ce livre, « L'humilité, la beauté de la sainteté ». C'était un très beau livre. Je vous lis un petit passage. « Nous avons reçu notre orgueil d'Adam ». Nous devons recevoir notre humilité de Christ. L'orgueil est à nous et nous gouverne avec une terrible puissance. Il nous possède. C'est nous-mêmes, c'est notre nature même. L'humilité doit nous appartenir, nous posséder de la même manière. Elle doit pénétrer notre âme et notre esprit. Elle doit être notre nature même. Il doit nous être aussi facile d'être humble qu'il nous était naturel et facile d'être orgueilleux. Les promesses de Dieu ne nous appartiennent-elles pas? Ne nous est-il pas dit que là où, même dans le cœur, le péché a abondé, la grâce a surabondé? Tout l'enseignement de Christ à ses disciples et tous leurs vains efforts étaient la préparation nécessaire pour qu'il pût venir habiter en eux par son esprit. Et ainsi non seulement leur donner, mais être lui-même en eux ce qu'il leur avait appris à désirer. Dans sa mort, il a détruit la puissance du péché. Il a ôté le péché. Il nous a acquis une rédemption éternelle. Dans sa résurrection, il a reçu du Père une vie entièrement nouvelle, marquée par la puissance de Dieu, capable d'être communiquée aux hommes par son esprit en eux. Il peut nous remplir de sa divine puissance. Il peut faire par le Saint-Esprit ce que nous ne pourrons jamais faire par nos propres efforts. L'humilité, nous devons la recevoir comme un cadeau de Christ. Parce que si c'était le résultat de nos efforts, ben forcément ce serait encore un sujet d'orgueil. On ne peut pas être fier d'être humble, parce que c'est encore de l'orgueil. Donc on ne peut que recevoir comme une pure grâce de Dieu de marcher humblement dans sa présence. C'est ce que Dieu désire accomplir dans nos cœurs. Si je suis dans cet état d'esprit, si j'ai un vrai souci de pratiquer ce qui est juste, si j'ai un vrai attachement à la miséricorde, et si je suis devenu par sa grâce humble pour marcher avec lui au quotidien, je vais pouvoir accomplir l'un des devoirs de l'amour le plus délicat. Dans ce texte, on t'a fait connaître au homme ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement. Ça termine par « avec ton Dieu ». Et on aurait tendance à penser que le « avec ton Dieu » concerne seulement le marcher humblement, que tu marches humblement avec ton Dieu. Mais non, le « avec ton Dieu » concerne tout le texte. Que tu pratiques la justice avec ton Dieu, parce que tout seul, c'est pas possible. Que tu aimes la miséricorde avec ton Dieu, parce que seul, c'est pas possible. Et que tu marches humblement avec ton Dieu, parce que seul, c'est pas possible. Mais si je fais cela avec Dieu, dans une communion intime avec lui, alors je vais pouvoir faire quelque chose d'extrêmement délicat, qui sinon conduit à la catastrophe. Dans Lévitique 19, il est écrit ceci. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Tu auras soin de reprendre ton prochain. » Où est la sacro-sainte tolérance? Tu auras soin de reprendre ton prochain. Non, il doit y avoir une erreur de traduction. Ça peut pas être écrit comme ça. Quel culot, à quel titre, de quel droit reprendre mon prochain? Il doit y avoir une erreur. Vous connaissez tous Salomon. Vous savez que c'était un auteur, comme tous les autres écrivains de la parole, inspiré par Dieu, mais qui avait quand même un net avantage par rapport à tous les autres. C'est que c'était probablement l'homme le plus sage de la terre. Une sagesse non seulement légendaire à titre posthume, mais légendaire de son vivant. Au point que, du fin fond de la brousse, la reine de Saba est venue vérifier si c'était vrai ou si c'était juste du oui-dire. Et qu'elle est restée bluffée, parce que la rumeur était très 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 en dessous de la réalité. Bref, l'homme le plus sage de la terre a écrit des choses telles que celle-ci. « Ton ami, par les blessures qu'il t'inflige, te prouve sa fidélité. » alors que les embrassades de ton ennemi sont trompeuses. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Le sot, le stupide, est la réprimande. Mais la réprimande du sage est une bénédiction. Bref, Salomon a très clairement indiqué que l'un des devoirs de l'amour, c'est de reprendre. Et nous le vivons dans le cadre de la famille. Nous reprenons nos enfants, nous les éduquons. Pourquoi? Parce qu'on les aime pas? Non, au contraire. Parce qu'on les aime, on les reprend. Dans le cadre du couple, il nous arrive de nous reprendre. C'est fait pour ça, le vis-à-vis. Tant qu'on est tout seul dans sa vie, on est bien, on est fort, on est beau, on est riche, on a tout ce qu'il faut, on est parfait. Puis vous vous mariez et d'un seul coup, il y a quelqu'un en face qui vous projette peut-être une image un peu différente. Et là, vous vous découvrez déjà... D'une autre façon, n'est-ce pas? Mais c'est le but. Et parfois, nous sommes appelés à nous reprendre, mais heureusement que quelqu'un d'autre nous voit différemment et a suffisamment d'amour pour nous, pour oser nous révéler, nous refléter l'image qui n'est pas tout à fait celle qui correspond à notre estime personnelle, n'est-ce pas? Et des fois, ce sont nos enfants qui nous reprennent. Et des fois, ils ont raison. C'est vrai que des fois on s'emporte, que des fois on exagère, que des fois on est à côté du truc, que des fois on n'est pas tout à fait dans la juste mesure, que des fois ben, on n'a juste pas compris pourquoi ils ont réagi comme ça, etc. Mais dans le cadre de la famille humaine, on part d'un postulat qui est la certitude absolue de l'amour de l'autre. Mon enfant ne va pas mettre en doute que je le reprends parce que je l'aime. Mon conjoint ne va pas mettre en doute que je le reprends parce que je l'aime. Et je ne vais pas mettre en doute que mon enfant, s'il me reprend, c'est parce qu'il m'aime. Dans l'Église, qui est la famille de Dieu, est-ce qu'on a cette même certitude absolue? Que mon frère, ma sœur, va me reprendre avant tout parce qu'il m'aime, et parce qu'il désire et qu'il ambitionne pour moi ce qui est le mieux dans la communion avec le Seigneur. Ou bien est-ce qu'on va être électrique, à fleur de peau, ne supportant pas la moindre petite remarque, la moindre petite réflexion? On veut bien que les anciens aient de l'autorité à l'égard des autres, vis-à-vis de soi. Pour qui se prend celui-là? Attends, de quel droit? C'est ma vie, c'est mes choix, c'est mon... On est parfois peu désireux d'être repris. Je le dis pour moi. Ça ne fait jamais plaisir d'entendre des choses, entre guillemets, négatives à son encontre. Ça ne fait pas plaisir. C'est biblique. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Pourquoi? Pour ne pas laisser pousser dans le jardin de ton cœur la vengeance, la rancune, l'amertume, la haine. Vous savez, au printemps, c'est le désherbage. Hein, j'ai désherbé. Ça n'a jamais été aussi court. Mais dans nos jardins personnels, dans le jardin de nos cœurs, est-ce que c'est peut-être pas la saison de vérifier qu'il n'y a pas de la mauvaise herbe qui a poussé? On a un petit pied à terre à grelir les neiges, là on n'y va pas très très souvent. Qu'est-ce que ça pousse vite, la mauvaise herbe, hein? Plus vite que les belles fleurs. Et dans l'église, est-ce que peut-être de temps en temps, c'est pas la saison de vérifier que toutes les mauvaises herbes ont été évacuées? Dans Éphésiens, Paul dit que toute clameur, toute amertume, toute animosité, toute méchanceté, toute calomnie disparaissent du milieu de vous. Tu auras soin de reprendre ton frère, mais de le reprendre avec amour, avec humilité, avec désir de miséricorde, avec justice, pas du haut de ton piédestal. Attends, je vais t'expliquer comment ça marche. Non, pas comme ça. Si je viens comme ça, c'est sûr que je vais me faire remballer. Et il aura raison, mon frère. Elle aura raison, ma sœur. Tu me diras, attends, écoute, passe au large, hein. Tu me fais de l'ombre. Mais si je viens avec un vrai amour, un vrai désir de conciliation, de réconciliation, pas dans l'orgueil, pas dans le jugement, pas dans la supériorité, alors ça devrait passer. La tendance générale, c'est d'aller sur Top Chrétien, de s'écouter un bon message et de se dire « Ah, ça c'était bien, ça c'était pas comme au culte le dimanche à l'église ». Ouais, sauf que aucun message du Top Chrétien ne peut remplacer la présence de chacun de vous dans cette salle. Aucun message, le meilleur soit-il, ne peut remplacer la présence du moindre d'entre nous à l'église. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu l'église. L'église bilan de santé. Un petit extrait. J'ai voulu quitter cette église à plusieurs reprises. Tous ces discours sur la lutte contre le péché, le service envers les autres, ces gens qui me demandent des comptes tout en étant eux-mêmes pécheurs. Ces paroles ont été prononcées dernièrement par un ancien de mon assemblée. Il a poursuivi en ces termes. Pourtant, je sais que c'est exactement le but de l'exercice. Parce que je suis toujours pécheur et que je veux me débarrasser du péché. J'ai donc besoin de rendre des comptes, d'être formé et de recevoir soin, amour et attention. Ma chair déteste cette façon de faire. Mais s'il en avait été autrement, j'aurais probablement divorcé, vraisemblablement à plusieurs reprises. Je n'aurais jamais vécu avec mes enfants. Je serais resté seul sur une île déserte avec moi-même. Dieu m'a démontré sa grâce et a pris soin de moi par le biais de son Église. Les églises saines, celles qui reflètent de plus en plus la nature de Dieu, telle que révélée dans sa parole, ne sont pas toujours des endroits où il est facile de vivre. Les sermons peuvent y être longs, les attentes élevées. Aux yeux de certains, les discussions entourant le péché apparaîtront probablement exagérées. La communion fraternelle peut même sembler importune, tout au moins par moments. Pourtant, la clé se trouve dans ces mots, un peu plus chaque jour. Si nous reflétons un peu plus chaque jour le caractère de Dieu, il est évident que certains aspects de notre vie, autant personnels que communautaires, ne le reflètent pas. Il y a assurément des taches à polir sur le miroir et des courbes à redresser sur le verre. Ce sont des activités qui nécessitent beaucoup de travail. Dieu, dans sa bonté, nous a appelés à vivre la vie chrétienne ensemble, afin que notre souci et notre amour les uns pour les autres reflètent les soins et l'amour qu'ils nous portent. Les relations interpersonnelles que nous cultivons dans le monde exigent un certain engagement de notre part. Il n'en est sûrement pas autrement dans l'Église. Dieu n'a jamais voulu que nous croissions tout seuls sur une île déserte, mais en compagnie en nous aidant les uns les autres. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. L'Éternel qui veut marcher avec nous. L'Éternel qui nous a montré ce qui était bien, qui nous demande de pratiquer ce bien, qui nous demande de pratiquer ce qui est juste, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec lui afin de nous acquitter de tous nos devoirs d'amour, y compris de reprendre avec grâce et amour notre prochain quand c'est nécessaire, afin qu'ensemble, tous ensemble, nous puissions progresser dans le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous et pour nous en tant qu'Église, la stature parfaite de Christ, l'épouse de Christ, pure, irréprochable et sans tache. C'est ça l'objectif de Dieu, pour chacun de nous et pour nous en tant que communauté. La perfection de Christ, sa gloire. On a tendance à oublier que l'objectif de Dieu pour nous, c'est la gloire éternelle. Et alors, on se contenterait de beaucoup moins de discipline, de beaucoup moins de soins, de beaucoup moins de difficultés, de beaucoup moins de coups durs. On se contenterait d'un 4 ou d'un 5, alors que Dieu envisage pour nous le 20 sur 20. Mais c'est parce que l'ambition de Dieu pour nous est immense, à la ressemblance de sa gloire et de sa puissance, que Dieu se montre exigeant dans son amour. Mais nous, en tant que parents, nous sommes capables de désirer le meilleur pour nos enfants. Il en serait autrement de Dieu. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne de progrès en progrès dans sa présence. Amen.